Bonjour et bienvenue au coin de la table, la chronique proxy jeu qui démonte le jeu de rôle et...
Et le jeu de société.
Le sujet du jour, c'est l'improvisation dans le jeu de rôle. Donc, d'où ça vient? C'est un comportement émergent. Donc un comportement que les joueurs ont développé sans que ce soit indiqué dans les règles. Puisqu'à l'origine, le premier jeu de rôle, Donjons Dragon, et par extension donc Chainmail un petit peu avant, ne prenait pas le fait de jouer son personnage en compte. Hein, on voulait faire évoluer les personnages, mais ça restait un jeu d'escarmouche, ça restait une extension de wargame, où l'expérience qu'on gagnait servait juste à devenir meilleur à tuer des trucs, et on tuait des trucs pour gagner l'expérience, ce qui nous permettait de gagner des trucs.
Tu lançais des dés, tu faisais des dégâts, tu tuais, et tu relançais des dés, et tu faisais de l'expérience.
Exactement, et il paraît même que Gary Gygax était un petit peu déçu de voir que les joueurs préféraient négocier et incarner leur personnage plutôt que juste lancer des dés et tuer des trucs.
Il paraît même qu'il aurait dit que Donjons et Dragons, c'était pas du jeu de rôle.
Donc on était plus, en fait, moyennant un anachronisme, dans le Diablo, le jeu finalement de hack and slash, de quête de performance, plutôt que dans le jeu vraiment de narration où on va aller se raconter des histoires. Quoi. C'était plus « Regarde mon gros guerrier, il tue des ogres à une main !»
C'est ça, ouais. Du coup, quel va être le programme aujourd'hui sur l'improvisation?
Aujourd'hui, notre programme va être assez classique, puisque justement, on va aborder le rapport un peu traditionnel qu'on a à l'improvisation en jeu de rôle. Donc, l'improvisation interprétation, ce qu'on appelle le roleplay, quand on va vraiment incarner les personnages, et également l'improvisation adaptation, puisqu'au final, qu'est-ce que le jeu de rôle, sinon une adaptation permanente de chaque joueur et du MJ à la situation et à l'histoire qui se déroule sous les yeux.
Donc.
Et d'abord, Aurélien, il me semble que tu voulais nous parler de ton maître à penser.
Et oui, puisque ça fait bien des semaines qu'on n'a pas parlé de Roger Caillois, qui dans son ouvrage « Les jeux et les hommes » donc décrit les différentes catégories de jeux. Hein. On parlait lors des podcasts sur le hasard de la catégorie de l'aléa, où on allait retrouver le plaisir de la machine à sous, où on allait se demander l'incertitude, qu'est-ce que ça peut nous apporter, etc. Là, on va plutôt parler de la notion peut-être plus fondamentale du jeu de rôle, enfin, c'est le sujet qui est... Et t'as débat bien sûr, mais qui est la notion de mimicrie, donc traduit par mimétisme en quelque sorte, et donc qui est définie, donc je cite, comme le fait de devenir soi-même un personnage illusoire et se conduire en conséquence. Donc c'est-à-dire jouer un rôle. On va retrouver les imitations enfantines, les panoplies, les arts du spectacle et tout ce genre de choses. Donc en termes de chronologie, on est situé un petit peu avant justement Donjons et Dragons et Chainmail. Même si ça se chevauche un petit peu en termes de timing, en tout cas la distance géographique faisait que le courant de pensée n'était pas encore diffusé. Et l'improvisation, ça s'inscrit dans cette catégorie justement du mimicrie, du mimétisme.
Et c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve de manière assez classique, la façon dont l'incarnation du personnage va se mettre au service de l'immersion, tout simplement. Moi, je suis pas mal allée me renseigner sur le blog d'Eugénie, qui s'intitule « Je ne suis pas MJ, mais... » et qui parle de l'expérience de joueur. Et c'est vrai qu'elle nous parle de l'improvisation comme d'une façon d'intensifier les émotions autour de la table, et d'avoir donc un roleplay qui va permettre une part d'improvisation, notamment gestuelle, et tout ça qui va renforcer la sincérité du roleplay. Elle fait une grande distinction en disant, je cite, « La sincérité n'a rien à voir avec le réalisme. » Et ce qui permet en effet de voir qu'on peut être sincère dans son roleplay, dans son interprétation, renforcer la sincérité autour de la table et l'intensité émotionnelle, sans que tout cela n'ait besoin d'être réel.
C'est un peu la méthode Actor Studio, où tu te mets dans l'état d'esprit, tu penses à des trucs tristes pour rendre ton personnage triste.
Et c'est vrai que ça, on a deux écoles différentes d'improvisation, n'est-ce pas?
Alors voilà, tout à fait. On a donc la méthode Actor Studio, justement, où on se met dans l'émotionnel en se disant, voilà, je pense à des chatons écrasés sur le bord de la route et ça me fait pleurer.
Ah non,
non, pas des chatons. Ou alors, il y a une autre possibilité qui est plutôt l'approche corporelle. Ça paraît un peu surprenant parlant de jeu de rôle où on a une visualisation d'être autour de la table, voire au coin de la table, et finalement sans forcément être trop dans le mouvement, puisqu'on réserve ça peut-être plus au murder party ou au GM en général, mais malgré tout, dans l'improvisation, on peut faire des mouvements avec son corps qui vont induire un état d'esprit plutôt corporel, un état corporel qui va permettre de faire émerger des sensations. Donc, par exemple, si on veut jouer un personnage qui est très agité, et bien on va aller, ou plutôt que de penser à des choses agitantes dans sa tête, on va plutôt aller secouer les mains, ou faire des choses comme ça. Et on retrouve des comportements aussi émergents autour d'une table de jeu de rôle, où on va avoir des personnages qui vont être, par exemple, grandiloquents, qui vont faire des grands mouvements de mains, comme je suis en train de faire, mais vous ne le voyez pas.
Et c'est bien dommage.
pour voilà, se mettre dans l'état correspondant. Donc c'est une autre façon d'improviser.
Bah moi je sais que les meilleures parties que j'ai fait en tant que MJ, c'était celles où j'étais debout, je bougeais autour de la table, où je me levais, je me mettais à gueuler, je tapais sur la table pour les prendre par surprise, ce genre de truc. Et ouais, ça marche quoi.
Ouais. Mais moi j'ai même déjà vu des parties où on commence tous assis autour de la table bien gentiment, et 3 heures plus tard on est tous tellement à fond qu'on est tous debout en train de faire des grands mouvements, et on est limite en train de faire une murder party en fait, ou un mini GN dans un salon. Tellement on est dans l'incarnation à fond. Et ça permet quand même d'avoir une immersion qui est géniale. Et d'ailleurs, les deux techniques sont tout à fait compatibles.
Oui, 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 tout à fait. Tout à fait.
Ça, en général, c'est le truc qui arrive, je sais pas, faut partager le butin, tout le monde se lève, tout le monde se lève dessus, et c'est ça. Mais non. Je suis un guerrier, je veux l'épée, toi t'es magicien.
Oui, mais elle est magique.
Moi je suis nain, elle vaut plus cher que les autres objets.
C'est vrai qu'on a souvent cette image du jeu de rôle comme quelque chose d'assez statique. Quand je décris aux gens ce que c'est le jeu de rôle et que je leur dis bah en fait on est assis autour d'une table, quand je commence à leur décrire le jeu de rôle, on incarne des personnages, on raconte une histoire, la première question qu'ils me posent c'est mais vous êtes déguisé?
Ouais.
Et c'est souvent l'une des premières questions. Et donc j'essaie de leur expliquer qu'en fait on n'a pas besoin du déguisement, que la gestuelle, que les émotions, que la voix suffit à transmettre l'émotion, à transmettre l'immersion, etc.
Après, tu as toujours le joueur de type Anib qui est là, je lance mon dé pour faire une attaque et je...
Non mais attends, là j'ai droit à une attaque furtive parce qu'en fait, je suis en position faveur, tu vois, si on fait un plan, bon...
On fera un épisode de podcast sur les typologies de joueurs.
On va se faire beaucoup d'ennemis.
Oui.
Après, moi je trouve que l'improvisation-interprétation, c'est également quelque chose qui est très important dans une partie... par rapport à la place du spectateur. Parce qu'autour d'une table, on est joueur, mais on est tous également spectateurs de l'histoire. On a toujours ce double rôle. On est actif, on va incarner les personnages, on est acteur, mais il y a aussi des scènes où on va être plus en retrait, on va juste regarder l'histoire se dérouler devant nos yeux. Et je trouve que pour ça, l'interprétation et le roleplay sont importants pour fournir du plaisir au final à toute la tablée. C'est pas ma scène, c'est la scène du copain d'en face, c'est une scène intense en émotion pour lui. Eh ben, je vais écouter, et le fait que lui il ait un bon roleplay, qu'il soit dans l'incarnation pas mal, c'est assez agréable, et ça permet de mieux faire passer des scènes qui ne concernent pas les autres joueurs, des scènes un peu plus intimes, etc. Et je trouve ça important de céder la place aussi au spectateur et de lui faire une place autour de
tout
la
tout à fait. Et c'est marrant parce que du coup ça me rappelle qu'il y a certains MJ qui donnent les rôles de PNJ aux joueurs.
C'est vrai.
En leur filant juste le nom, une carte avec quelques détails, et
il y a
joueur,
certains jeux qui font ça.
Oui, certains jeux qui font ça, peut-être. Peut-être que c'est ouais, régularité, je sais pas, j'ai jamais rencontré ça, mais du coup c'est marrant parce que là même le MJ du coup abandonne un petit peu son truc et laisse faire le joueur quoi.
Ce qui est encore une autre part d'improvisation, puisque du coup le PNJ va être lui-même incarné par un joueur dont le MJ ne peut anticiper les actions et les comportements.
Voilà. Le joueur reçoit un objectif avec ce PNJ, mais sans plus quoi.
Mais il y a des jeux en effet qui le formalisent concrètement. Il y a des jeux en effet qui vont formaliser le fait que c'est des autres joueurs qui vont incarner les PNJ, typiquement les jeux sans MJ type Polaris de Ben Lehman, où chaque joueur se répartit les PNJ selon sa position autour de la table. Donc par exemple, moi on fait ma scène, je suis la joueuse à mon emplacement là, actuellement Aurélien est à ma gauche, donc il va jouer tous les personnages qui sont liés à l'affect, mes parents, mes amis, les relations amoureuses, etc. Tous les PNJ liés à ça. Et Pascal, lui, à l'inverse, va jouer tous les personnages liés à la hiérarchie, au monde professionnel, etc., tout ce qui est strict, etc. Et donc, dans les règles, la répartition des PNJ elle-même est inscrite, et c'est du coup à chaque joueur d'improviser les PNJ selon leur apparition dans les scènes.
D'accord.
Ce qui est toujours très... Enfin, ce qui, justement, demande des capacités d'interprétation assez fortes, puisqu'on ne va pas forcément avoir un background qui va être très détaillé en amont, et on ne va pas se dire, ben voilà, à tel moment, mon personnage répondra à ça. Et c'est vrai que dans cette improvisation d'interprétation, nous sommes toujours dans cette partie interprétation, la partie donner quelques clés significatives aux joueurs, finalement, enfin, à la personne qui va incarner le personnage est importante, pour pouvoir se dire, bah voilà, est-ce qu'un personnage est comme ça, est-ce qu'il est comme ceci, est-ce qu'il est plutôt sanguin, est-ce qu'il est plutôt passif, ou voilà, donner quelques éléments pour ne pas être en terre inconnue, ou alors assumer le fait d'être en terre inconnue, mais ça demande aussi, c'est assez exigeant pour les joueurs en fait, de pouvoir se dire, bah voilà, tu prends un rôle un peu comme tu le sens, et ça peut créer peut-être aussi des différences autour de la table entre peut-être le niveau théâtral des joueurs, ce qui est aussi un truc...
C'est vrai.
C'est intéressant.
Et c'est vrai que des fois, j'ai déjà eu des tablés avec des joueurs qui se sentaient mal à l'aise parce qu'ils ne se sentaient pas suffisamment en confiance dans leurs compétences d'interprétation pour prendre la parole, interpréter, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense, où c'est important de travailler autour de la table pour mettre tout le monde à l'aise avec ça. Peu importe le niveau, parce qu'en effet, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec la prise de parole, avec le fait de gueuler pour interpréter un personnage colérique, il y en a qui ne vont pas oser. Mmh. Et c'est important d'essayer de mettre tout le monde en confiance autour de la table pour que les barrières puissent tomber.
Et d'où la posture de spectateur aussi, j'écoute, qui va induire une bienveillance en disant, ben voilà, on t'écoute, tu n'as pas à être Johnny Depp ou quelqu'un qui fait des interprétations de folie, tu joues ton rôle, tu te fais plaisir, et c'est le principal, nous, on est là pour t'écouter, et ça nous fait plaisir que ça te fasse plaisir, quoi. Ouais.
Après, bon, évidemment, il y a toujours il y a l'interprétatif et il y a le descriptif.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'interpréter, mais tu peux décrire ce qui se passe.
Oui.
Voilà. Mmh. C'est le moment où tu ne dis pas... Alors, bon, on a l'habitude de dire « je » dans le jeu de rôle, mais on peut aussi dire de son personnage « il ».
Oui.
Voilà. Il est en colère, il renverse les tables, il fait caca par terre, ce genre de truc, quoi.
Il fait ce genre de truc, tu crois ?
C'est pas comment il joue.
Mais ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est de voir que justement, ça dépend vraiment des joueurs. Moi, je sais que j'ai tendance à dire je, même quand je passe à la description.
Ouais, pareil.
Je parle, je dis ah non, mais comment tu peux me faire ça ? Bon, ben là, je me lève et je vais casser un vase. Oui. Et du coup, je dis je, alors que là, je pourrais dire elle se lève et elle va casser un vase, mais je trouve que ça pète mon immersion.
Non, bien sûr. Bah, par réflexe, on dit je de toute façon. Quand je disais, on passe sur le mode du « il », c'est plus
pour dire, sur la description.
Pour parler du descriptif en général.
Ce qu'on n'a pas besoin de faire dans le GN, puisqu'on le fait tout simplement.
Voilà.
Après, pour revenir sur ce que tu disais sur les traits de caractère, c'est quelque chose que je trouve assez important dans la création de personnages et de background. Souvent, on a tendance, quand on crée un personnage, à parler de son histoire, de ce qu'il a fait, etc. Mais assez peu de son caractère. Et au final, moi, je trouve que ce qu'il y a de plus facile pour interpréter un personnage, c'est de connaître d'abord le caractère et après le background. Ou alors le lien entre les deux. Pourquoi elle est impatiente ? Bah parce que pourquoi il est colérique ? Parce que tatatitatata. Et très souvent, le background met l'accent sur ton histoire, mais pas forcément sur, au final, qui tu es aujourd'hui avec cette histoire-là.
C'est vrai, ça dépend beaucoup du jeu. C'est les jeux avec avantages et désavantages, par exemple, souvent qui prennent, qui disent les gens prennent un désavantage, donc du coup ils construisent un caractère au personnage.
Pour ça, on a aussi l'exemple de mage dans la saga des mondes des ténèbres, dans lequel les personnages vont avoir une nature, avec tout un vrai des traits de personnalité qui vont être choisis au début et qui vont décrire un personnage va globalement se comporter comme ça, il va être plutôt manipulateur, je pense à mon personnage, ou des choses comme ça.
Tous les jeux White Wolf font le système avec une vertu et un vice.
D'accord.
Donc que ce soit dans World of Darkness, dans Loup-Garou ou dans Vampire, en général, c'est d'ailleurs quand tu accomplis ta vertu ou ton vice que tu vas regagner tes points d'humanité ou de je sais pas comment ils l'appellent dans les autres jeux, etc.
Alors dommage, pour le coup, il n'y a pas vraiment de vertu-vice, il y a plutôt nature et j'ai plus l'autre nom pour le coup, improvisation, mais c'est plutôt un trait de caractère que j'affiche aux autres et un autre trait de caractère qui me caractérise véritablement, sans notion de, entre guillemets, bien ou mal comme vertu-vice. C'est plutôt, moi j'ai un personnage qui, au fond de lui, il est très découvreur, du coup, il aime bien découvrir de nouvelles choses, etc. Et ce qu'il affiche aux autres, c'est plutôt quelque chose de plutôt dans la manipulation pour pouvoir...
Oui, au final, c'est ce qui est visible et ce qui est plutôt caché.
C'est ça. On entend souvent dire qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens qui s'autodéfinissent, qui disent « moi, je suis plutôt comme ça », etc.
Et c'est vrai que dans Mandblade également, il y a un système comme ça où tu définis à la fois ton background historique, donc ton héritage. Tu as également ta personnalité, est-ce que tu es plutôt type voyageur, type ceci, cela. Et ça permet assez rapidement d'avoir une bonne construction d'un personnage. Et donc sinon, on a également la partie un peu plus liée à l'adaptation dans le jeu de rôle, autour de l'improvisation, à savoir être dans une posture où on peut constamment s'adapter à la situation et à ce qui se passe autour. Pour ça, Aurélien, tu voulais nous parler d'un article que tu as lu récemment.
Tout à fait. Donc, c'est un article tiré du livre « Mener des parties de jeux de rôle », donc de la collection Lapin-Marteau, gérée par Jérôme Brand, Larré et Coralie David. Et donc, il y a un article sur l'improvisation qui a été écrit par Alexandre Jeannette. Et donc, il donne un peu des grandes lignes sur l'improvisation en tant que... Alors, plutôt en tant que maître-jeu. C'est plutôt une optique MJ, comment faire pour improviser les différentes réactions des joueurs, donc avec un panel de choses. Et en gros, il y a deux grands axes, plutôt trois en fait, mais on va parler de deux grands axes en particulier, qui sont la préparation en amont, où il faut vraiment, donc il conseille de maîtriser le genre, essayer de chercher l'intention du jeu, est-ce qu'on veut plutôt être dans l'émulation ou l'inspiration, donc est-ce qu'on veut vraiment rester très strict et très collé à l'œuvre qu'on veut faire, ou est-ce qu'on veut plutôt une expérience de jeu un peu plus transversale, et donc aussi donner des conseils type essayer de connaître ses codes un maximum, et aussi de pouvoir se taire pour dire bah, je prends le temps, je réfléchis et je vais voir ce qui se passe. Et l'autre axe, c'est plutôt pendant la partie où on va avoir des choses comme comment réagir face aux choix inattendus des joueurs, face à un jet de dés improbable. Donc ça, c'est assez intéressant. Une des règles, c'est essayer de prévoir les résultats avant le lancer des dés pour pas être pris au dépourvu par les différents lancers de dés. Donc ça demande une certaine souplesse de la part du MJ, mais qui est temporisée par une adaptation un peu plus en amont que le lancer des dés pour prendre un peu le temps. Et en fait, la règle d'or qui dit, c'est vraiment ne jamais dire non aux joueurs, qui est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans le théâtre d'impro et surtout dans le clown, qui est ne jamais dire non en général, mais plutôt s'adapter à ce qui se passe et ne pas bloquer des chemins, mais plutôt faire des redirections de chemin.
Donc, c'est ce qu'on retrouve également énormément dans tous les jeux sans MJ, les jeux à narration partagée, où justement, comme il n'y a pas de MJ pour dire non, bah, il ne faut pas dire non.
Et surtout que le non, en général, frustre tout le monde.
Et oui, c'est ça.
Quand tu dis non, tu frustres les joueurs. Mais quand les joueurs ne comprennent pas ou ce que tu veux, ou là où tu veux en venir, ou même que simplement la solution que tu leur imposes en disant non,
c'est ça,
leur plaît pas, bah voilà, c'est pas cool.
Donc là, un exemple qui est cité, c'est un exemple de quelqu'un qui joue un professeur d'histoire médiévale et qui demande s'il a des contacts dans la pègre. La réponse est non, mais tu n'as pas de contact dans la PEG, mais peut-être que, donc c'est une citation, hein, peut-être que l'étudiant que tu as fait renvoyer pour possession de drogue, si, pas sûr qu'il soit content de te voir par contre. Donc là c'est intéressant parce que ça ouvre une autre piste que le joueur va pouvoir prendre ou pas, mais en tout cas il n'est pas devant une impasse bloquée avec des rochers dans tous les sens. Ouais,
pas de réponse fermée de toute façon.
Exactement. Ouais.
Donc tu transformes ton non en non mais.
Voilà, exactement.
Oui, mais.
Comme dans, qu'est-ce que c'était le
Bastorg.
Ah, Bastorg, bien sûr.
Oui, selon le résultat, à n'importe quelle action que tu veux faire, conflictuelle évidemment, ou un peu compliquée, doit être formulée par une question. Est-ce que l'exemple que j'avais donné et que je vais reprendre, est-ce que j'arrive à le faire tomber de son cheval? Tu lances ton dé, et selon le résultat de ton dé, tu as oui et, oui, oui mais, non et, non, non mais, non, non et.
Ouais.
Et en fait, la réponse du MJ va toujours commencer par ça. Alors non, tu n'y arrives pas, mais en revanche...
Et ça formalise quelque part quelque chose qui est un peu en creux dans les lancers de dés, parce que quand on a un système des vins, on a un vin, on sait que ça va être un succès retentissant, par exemple.
Donc, oui, on a toujours tendance à temporiser le succès en rajoutant des choses, ou au contraire en faisant que c'est un succès très juste.
Par défaut, on va dire dans le jeu de rôle, quand on fait une réussite, c'est oui. Et puis quand on fait une réussite critique, c'est oui et.
Ouais,
oui,
c'est ça.
C'est ça. Après, il y avait aussi toute la question des tables aléatoires et de leur utilisation, justement, sur ces questions d'adaptation.
Ouais, alors les tables aléatoires, c'est un truc super intéressant. Enfin, moi, je trouve. C'est pas là du tout.
Moi, je suis un peu plus mitigé, mais bon.
Les tables parce que...
Moi, j'aime bien, il y a des chiffres.
Parce que, justement, c'est...
J'aime bien, c'est des dés pour ça. Ah, ouais, là, c'est des dés.
Non, ça peut être très utile, parce que les tables aléatoires, tu peux en avoir pour tout. Voilà. Et vous savez que je suis un grand fan de Zach Smith et ses tables aléatoires sont excellentes puisqu'on a une table aléatoire pour créer des aristocrates avec des tares mentales dans Vornheim par exemple.
Waouh, genre des tares consanguines.
Oui, ou simplement des petits tics machin du genre est convaincu que tout le monde possède tel objet chez lui alors que c'est pas vrai. Ou des choses comme ça. Bref, alors la table aléatoire du coup c'est peut-être la première et la plus ancienne forme d'improvisation régularisée
dans
le jeu de rôle.
Ouais.
Hein, puisque voilà, à partir du moment où on avait une table pour définir les trésors
et les monstres
et les rencontres,
faut tomber sur une tarasque. Oh non,
je sors un mec.
Faut tomber sur un renard.
Ça, c'est toujours c'est le moment awkward. Sur un loup.
On ne fait rien.
Faut tomber sur une poule. Là.
Pourquoi est-ce qu'il vous a...
Je la tape comme dans Zelda.
Et puis, du coup, comme dans Zelda, t'as 10 millions de poules qui tombent du ciel. Bref, bah, la table aléatoire, du coup, ça c'est bon ou c'est mauvais côté?
C'est pas vrai.
Le mauvais côté, justement, c'est utiliser la table de rencontre à outrance. Parce que, du coup, voilà, on disait le moment awkward, vous êtes dans la forêt, vous rencontrez un loup. Pourquoi est-ce que le loup vous attaque? Je sais pas, je m'en fous, tuez-le et on verra bien.
Ça fait XP.
Ça fait XP, voilà. Et le côté plus sympa, où c'est pareil, hein, de toute façon, parce que les tablatoires, pareil, si vous tirez le trésor à chaque fois, bon bah du coup, vous perdez 3 heures à tirer votre trésor, sauf si vous faites à l'avance. Mais du coup, si vous faites à l'avance, c'est presque plus d'improvisation, quoi, c'est d'adaptation. Et le côté sympa, c'est que justement, bah, ça ajoute de l'imprévu pour tout le monde, y compris le MJ. Du coup, ça force tout le monde un petit peu à construire l'histoire, parce que du coup, bah voilà. Un talent disait pourquoi est-ce que le loup attaque les joueurs? Ah bah peut-être que les joueurs sont sur son territoire, ou peut-être que le loup était ensorcelé par un vilain sorcier.
Ou peut-être qu'il y a des louveteaux juste derrière
peut-être
eux.
Peut-être qu'il y a des louveteaux, ou peut-être qu'il est corrompu par une force lovecraftienne, ou peu importe.
Ou peut-être qu'il a la dalle.
peut-être qu'il est, mais dans ce cas-là.
Il est blessé.
Oui, mais s'il a faim, il a forcément des malus parce qu'il est affaibli. Et... enfin bref, parce qu'un loup n'attaquerait jamais un groupe d'humains seul. Enfin bref, on va pas. Mais bref, ça cherche à...
Sortons dans ton encyclopédie les forêts, copains des bois.
Mais bref, ouais, dans ce cas-là, ça, c'est bien parce que ça sert à, du coup, à, comme on le dit souvent, à bah, créer de l'admiration, créer du jeu, des choses comme ça.
Pour faire émerger de la créativité par la contrainte, en quelque sorte.
Exactement. Et puis, ça sert à varier les jeux, le fait d'avoir des tablatoires, alors justement, voilà, pour parler des Axmis, si vous regardez Vornheim, si vous regardez Harald and Pleasantland et son nouveau bouquin qui vient de sortir, que je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de lire, Maze of the Blue Medusa. Comme il disait, voilà, il a envie de faire un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, ce truc, et il a fait le rouge, le bleu, on va voir pour la suite. Eh bien, il y a beaucoup de tables aléatoires. Hein, pourquoi ? Bah, parce que justement, vous pouvez imaginer, ça vous permet de jouer le même scénario, enfin le même setting en tout cas, avec plein de joueurs différents et de jamais avoir la même chose. Mmh. Hein, parce que de toute façon, d'une part, vous n'aurez jamais la même chose avec les joueurs, mais en plus, de l'autre côté, de ce que vous faites, ça permet un petit peu en tant que MJ, je pense, de relancer la machine, de pas toujours faire le truc, de pas tomber dans les pièges habituels. Quoi.
Mmh. Bon, on retrouve un petit peu la même chose avec Fiasco, justement, où en fait, toutes les parties sont créées selon des settings qui sont ni plus ni moins des tables aléatoires, qui vont définir les éléments qui vont popper dans la partie. Et donc, c'est des tables aléatoires où au début, on a une poule de dés qu'on lance et on choisit dans les dés qui sont lancés. Alors, attends, moi, je prends un 5 et un 4, ça veut dire qu'il y a un enfant illégitime. Je prends ça et ça, ça veut dire qu'il y a une Bible. Et c'est des éléments qui vont devoir surgir dans la partie. Et c'est exactement ce qu'on disait, de la contrainte va naître la créativité.
Mmh, tout à fait. Et bah voilà, du coup, c'est très bien. Tout à fait.
Voilà, tu es d'accord.
Je suis, d'accord, là, je veux plus soi. Plus un like, tout ça.
Moi je vais rebondir un petit peu sur les tables aléatoires aussi pour citer le livre précédemment cité, donc Mener des parties de jeux de rôle. Il y a aussi un bel article d'Eric Niodam sur construire un donjon, une méthode aléatoire, c'est bien ça.
Alors si Eric Niodam nous écoute par au moindre hasard, nous aimerions qu'il nous contacte pour savoir comment se prononce son nom de famille.
Merci, ça serait super. Et donc effectivement, c'est ce qu'il dit au tout début, c'est un donjon, c'est plus qu'une série de défis tactiques. Il propose une table aléatoire mais raisonnée, c'est-à-dire où l'idée c'est de permettre de préparer la construction d'un donjon pour formaliser un peu la chose, pour faciliter un peu la vie au MJ, et aussi de faire émerger de la créativité par justement des choses qui vont arriver du style, alors là on a pioché un habitant rebelle, alors qu'est-ce que c'est l'habitant rebelle par rapport à l'habitant du donjon, quel est son but, quel est son objectif. Donc il y a beaucoup de possibilités qui peuvent émerger si on l'utilise un peu à sa sauce, quoi.
Ouais. J'avais vu un petit bouquin aussi comme ça de création aléatoire de donjon, pareil. C'est pas de Miedan ou Miedan, c'est...
On peut appeler Eric.
Eric, ce n'est pas de Monsieur Eric. Où en fait, ce qui était intéressant, c'est que en fait, c'était un système d'âge, de civilisation, et en fait, les premiers jets que tu faisais sur une feuille avec les dés, ça plaçait en fait des cavernes naturelles. Mmh. Puis après, tu avais un premier passage de civilisation, ça disait le type de civilisation, donc leur architecture, comment s'ils avaient tendance à creuser, etc. Puis après, hop, troisième jet, c'était une deuxième civilisation qui passait derrière. Alors, t'avais aussi entre temps comment est-ce que la première avait disparu, ou avait été délogée, qu'elle avait été délogée par la nouvelle, etc. Et du coup, tu construisais ton donjon comme ça, etc. Et c'est comme ça que tu te retrouvais justement avec des trucs complètement what the fuck, genre mais pourquoi est-ce qu'il y a un dragon dans cette pièce de 10 mètres carrés. Mais du coup, ça permettait de justifier le truc, c'était marrant parce que.
Ah, c'est pas mal, ouais. Ça doit donner des choses assez originales et sympas.
Ouais.
Alors moi, pour rebondir sur hors table aléatoire, on voudrait citer un petit exemple de jeu de rôle où l'improvisation est une nécessité absolue, c'est le jeu Toon, tout simplement. Donc un jeu de rôle avec un système très simple, avec un D6 où on va jouer des personnages Toon, donc dans l'univers de Toon, où la logique, il n'y en a pas, ou si peu, où on va avoir un... Donc on commence avec soit un gizmo, qui est un truc qui peut prendre n'importe quelle forme, soit un trou qui permet de... Quand on va dedans, en fait, on se téléporte ailleurs, et on a une quête qui est d'aller trouver un random objet. Bon. Et donc du coup, enfin... Tout le set du jeu, mais vraiment tout, va être basé sur l'interprétation du MJ, enfin sur l'adaptation du MJ au lancer de dés. Par exemple, je dis, bah, j'essaye de faire une action complètement farfelue, genre j'essaye de me prendre moi-même par les oreilles en les tirant en arrière pour m'auto-catapulter vers l'autre bout de la planète. Ok, c'est parce que c'est tout. Bah, du coup, à partir de ça, on va lancer un dé, entre 1 et 6, on va avoir un succès, mais alors qu'il va falloir inventer sur le fil, parce que c'est impossible de prévoir une réaction logique et formalisée à un monde dans lequel la logique n'existe pas du tout.
Je comprends pas, moi je fais ça tous les dimanches.
Aucun problème. Pour aller au boulot,
je me projette avec mes propres oreilles.
Ça, je me retrouve en Inde. Bon, c'est pas grave, je fais une nouvelle machine arrière, il n'y a pas de souci. Et donc c'est vrai que c'est assez technique finalement, puisqu'on n'a pas grand chose sur lequel se baser, si ce n'est l'univers du tout, mais le fait qu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça demande... La liberté demande une certaine exigence en fait à ce niveau-là. C'est assez intéressant de jouer ça et de masteriser ça.
Et c'est
marrant,
vas-y.
Ouais. Voilà. Du coup, moi je voulais rebondir. C'est vrai que ça me fait penser aussi à Made RPG, qui du coup est un jeu à table aléatoire où en fait, à chaque fois que les joueurs et le MJ se sentent coincés, le MJ va lancer sur une table aléatoire pour savoir un peu ce qui se passe. Et du coup, c'est aussi comme tout un jeu un peu what the fuck, puisque c'est un jeu basé sur l'univers des animés, c'est complètement caricatural. Où les joueurs jouent des maids et à chaque fois il y a des situations du genre vous vous retrouvez transportés dans une dimension
à paillettes et licorne. Alors,
la paillette à licorne le truc où il y a une armée de zombies qui débarque ou peu importe, mais on en a tout parce qu'on est des maids et parce qu'on a des super pouvoirs, etc. Bah, moi la dernière fois et que j'ai fait un truc, mon super pouvoir c'était d'être capable de m'enfuir. J'étais une maid fée pyromane.
Ça me fait un peu penser à la série Flanders Company, où on a des super pouvoirs parfois tout à fait différents. Genre, je saoule les gens. Ils ont un super pouvoir, c'est saouler les gens. Donc, c'est une personne qui parle beaucoup.
Ah, ça te correspond vachement bien.
Ouais. Je peux pas supporter ce podcast.
Mais c'est marrant parce qu'on voit qu'au final, il y a des façons d'improviser, dans le sens d'adapter, très différentes pour le joueur et pour le MJ. Le joueur, il va toujours être dans une posture où il faut qu'il crée à partir de ce qu'on lui donne. Il est dans une posture de réception. Il réceptionne ce que le MJ donne en tant que scénario, en tant que situation, et il doit en faire quelque chose, il doit créer par-dessus. Que le MJ, lui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il propose une recette, et il va falloir ajuster les quantités de sucre et d'œufs et tout ça, selon les réactions des PJ. Et donc on en a un qui est plutôt dans l'instinct, qui va devoir rebondir sur ce qui se passe, et l'autre qui va plus être dans une posture d'adaptation permanente, de se repositionner par rapport à ce qui se passe et ce qui était prévu selon un scénario, si scénario il y a.
Alors du coup, un truc qui est intéressant aussi, c'est que pour être un MJ qui me suis pas mal exercé à l'improvisation ces derniers mois, et bien du coup le truc d'improvisation, c'est quand là je commence avec ce qu'on appelle une graine, un seed, je pioche trois cartes avec des mots écrits dessus, puis j'essaie de construire un truc à partir de ça. Et en fait, à partir du moment où je lance les joueurs là-dessus, et ben, tout le scénario que je construis, et ça je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai lu ailleurs, tout le scénario, et ben, en fait, je le base sur ce que les joueurs font justement. Du coup, le fait de dire oui et, ou de dire non mais, ça devient vital, parce que si je bloque en fait les joueurs, je me bloque. Voilà. C'est les joueurs qui m'offrent en fait les pistes pour créer mon scénario, quand ils me posent des questions, quand ils me disent... justement, est-ce que j'ai des contacts dans la paire ou des trucs comme ça.
Il y a un vrai aller-retour entre finalement le joueur et le MJ, où le joueur, en échange de ce que tu disais Guillaume, va aussi fournir de la matière au MJ pour qu'il puisse continuer de créer.
Alors moi j'avais fait une fois quelque chose d'assez sympa et que je vous conseille d'essayer. En fait ma partie c'était, enfin mon scénario, j'avais rien préparé, j'étais à la masse, je faisais une partie de Innominis Satanis, et en fait j'avais pris un article de journal. Et c'est tout ce que j'avais. Et c'était le jour où on avait eu les Vatican Leaks, où du coup un abbé ou évêque, je ne sais quoi, avait balancé des documents à des journalistes qui parlaient de scandales sexuels, évidemment. Hein. Donc voilà, je m'étais ramenée avec mon article de journal et j'avais filé ça à mes joueurs en disant, voilà, votre prince démon vous convoque et on vous donne ça. Et c'était assez sympa de voir ce que eux en tirait. Et je me disais, ah mais ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a infiltré là-bas ? Tout à fait. C'était bien entendu ce que j'avais prévu.
Et... c'était exactement ce que je voulais faire.
Voilà. Et c'est, au final, du coup, c'est assez sympa de faire une sorte de briefing au début où on leur fournit juste un article de journal et voir ce qu'ils en font. Et au final, bah, c'est eux qui créent le scénario quasiment en fournissant juste une cible.
Ouais.
Et ça peut donner des choses très sympathiques en partie.
Yep. Exactement, c'est même parfois le meilleur scénario.
Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine un peu lors de ce podcast qui se rapproche un petit peu de la fin, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de jeux de société.
C'est terrible.
Ah, ça sera la prochaine fois alors.
Ah, mais voilà une bonne idée. Mais alors, de quoi va-t-on parler la prochaine fois ?
L'improvisation dans le jeu de plateau.
C'est ça. En fait, on vous propose un épisode sur l'improvisation sous d'autres formes, donc avec un peu moins traditionnel que ce qu'on a dit, donc avec des contraintes un peu alternatives, différentes. Enfin, je ne vais pas trop en dire, parce que sinon, on va vous spoiler le podcast suivant.
Mais du coup, avec plus de liens entre jeux de rôle, jeux de société.
Exactement.
So many possibilities.
Peut-être même qu'on parlera un peu de jeux vidéo.
Oh là là.
Et ben, après ce teaser, on vous dit à la prochaine.
Et jouez bien.